Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 milieux sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste ? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 milieux sous ma chair, dans le cœur sur la table.
Salut, c'est Thomas Rozek. Comme promis dans l'épisode d'hier et sans plus attendre, voici tout de suite le premier volet de la mini-série de Karim Boukercha et Quentin Bresson consacrée à l'histoire riche en rebondissements de la tectonique, une histoire qui nous occupera toute cette semaine. Bienvenue dans Programme B.
Écoute, moi j'ai jamais fait de tectonique, mais j'ai toujours été intrigué par leur mouvement. Il se trouve que plus jeune, j'ai croisé leur route parce que ça m'est déjà arrivé d'aller dans la boîte où ils dansaient, où ils avaient leur soirée. Et j'avais toujours trouvé que c'était un mouvement que je jugeais authentique. Je me reconnaissais pas du tout dedans, mais j'ai toujours trouvé qu'ils avaient quelque chose de vrai, qu'ils vivaient quelque chose d'unique à leurs yeux. Du coup, il y a eu une curiosité qui est arrivée un peu plus tard pour moi de revenir là-dessus. J'ai voulu faire parler des danseurs qui avaient vécu le truc, le fondateur, les fondateurs de du mouvement tectonique, les DJ, parce qu'évidemment, il s'agissait évidemment de l'électro et donc du monde des musiques électroniques. Ouais, des gens qui ont baigné là-dedans, quoi, des gens qui pouvaient nous restituer comment tout ça s'est passé, mais depuis leur fenêtre, parce que j'avais l'impression qu'on ne les avait jamais entendus parler. J'en ai tiré qu'ils avaient vécu quelque chose d'extraordinaire, qui s'était arrêté du jour au lendemain, qui avait été ultra à la mode et démodé presque aussi vite, et qu'eux, ils en ressortaient avec une très grande nostalgie et aussi peut-être un sentiment profond d'incompréhension. C'est-à-dire que même quand j'essayais de les faire parler, je voyais que les gens étaient vite fuyants. Quand il s'agissait de parler d'un autre qui avait participé au truc, ils me donnaient pas leur nom. Et des fois, j'avais vraiment l'impression, c'était presque comme s'ils avaient une maladie grave, tu vois, genre... Puis petit à petit, je crois qu'ils ont ressenti que j'étais bienveillant et que moi, j'avais juste finalement envie de qu'on les comprenne mieux et leur donner la parole. Et alors là, on est rentré dans un autre rapport que je pense qu'ils m'ont confié vraiment comment ils l'ont vécu. Voilà. J'ai décidé d'appeler cette série documentaire Tectonique, danser, mourir, recommencer. C'est en 4 épisodes. Et le premier vous raconte comment la tectonique naît dans le temple mythique du Métropolis.
Tu peux me replonger dans tes souvenirs et de me raconter comment était ce club.
Waouh, mais en fait, j'en parlais avec passion.
Alors en fait, t'arrives, c'est un pont.
Trixie, danseur tectonique.
Un simple pont, tout dégueulasse, en plein jour, où il y a marqué Métropolis, vraiment un peu à l'américaine.
Déjà, c'est en dehors de Paris, c'est en banlieue, c'est énorme.
Tu montes les escaliers, donc t'as des gros escaliers, tu montes, tu fais le tour, et t'as un grand couloir avant d'arriver à l'entrée.
Le son, il commence à sentir les basses.
Et là, t'as un physio que tout le monde a connu, hein. Il s'appelle, et je vais le dire bien fort, il s'appelle Wilfried. C'est le démon de tous les clubbers. Et donc tu rentres dedans, tu passes les caisses, t'arrives aux vestiaires, tu te prépares. Déjà t'as la musique dans les oreilles, donc forcément t'es déjà dans l'ambiance. T'es excité parce que t'as qu'une envie, c'est sur la piste de danse. Tu rentres dedans et là c'est la folie, t'as des gens fluo partout, t'as des gens qui dansent de partout.
C'est pas qu'une boîte de nuit, c'est pas... Le réduire à ça, c'est pas possible, en fait.
Mathilda, danseuse tectonique.
C'est un peu Alice au Pays des Merveilles. En fait, c'est un monde à part, clairement. La soirée, j'étais complètement choquée. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette boîte qui fait 5 salles, qui accueille, il y a une queue à 21h30, je comprenais rien, je voyais des gens avec des trucs fluo partout. Moi, c'était pas du tout mon monde à la base.
Donc, t'es arrivé dans cette grande salle avec un haut plafond, puisque t'avais une mezzanine au-dessus, avec un toit qui s'ouvrait à l'époque. Et si tu veux, t'allais soit à droite, soit à gauche.
Quand on arrive, déjà, il y a une ambiance, il y a un truc assez fort, il y a une puissance. Et après, on rentre dans ce truc-là, on se dit, mais qu'est-ce que c'est? C'est immense, immense. On lève les yeux, c'est immense. On voit un étage, il y a des escaliers, un carré lumineux. On se dit, mais attends, c'est infini, pas un DJ dans une cage, des trucs. Mais on me dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Et après, on descend, il y a d'autres salles, il y a d'autres trucs.
En fait, il faut que tu saches que sur ce duo qui a créé la tectonique, tu as Cyril Blanc. Cyril Blanc, c'est le grand directeur artistique. Et c'est lui qui te fabriquait cette ambiance lumineuse où il utilisait de la toile de parachute et différentes toiles à base de lycra. Il tendait ces toiles-là et il en mettait partout. Et ça avait une grosse réverbération de volume dans la salle. C'était magnifique.
C'était de la musique beaucoup plus agressive. Il y avait du hardstyle, il y avait du jumpstyle, il y avait des styles différents.
Sias, danseur tectonique.
Je sais pas, à la base, c'était très crête décolorée et tout le monde était un peu habillé de façon pas habituelle. Donc du coup, c'est cool.
Moi, faut que tu saches, quand je suis arrivé, j'avais pas d'argent, j'étais jeune. J'arrivais à 23h. Je suis né du 95, donc c'est au-dessus, c'est à l'autre bout de Paris. Je mettais 1h30 à l'aller. Je me pointais à l'entrée, je rentrais, je dansais toute la nuit. J'allais boire de l'eau aux toilettes qui étaient chaudes. Je buvais de l'eau jusqu'à 6h. Je me pétais la tête, je dansais dans tous les sens, je me cassais le cou, j'avais mal aux bras, mal aux épaules, j'avais des courbatures. Puis j'étais tellement heureux parce que c'était ma place, elle était là et nulle part ailleurs. Et tous les week-ends, c'était ça. Et le retour, je mettais 2 heures pour rentrer chez moi.
Tout le monde, en fait, il y avait un espèce de écho qui résonnait dans Paris, qui disait que le Métropolis, c'était the place to be, l'endroit où il faut vraiment être. Je suis tombé et amoureux de la musique, et amoureux du lieu, et amoureux des gens. Et puis voilà, quoi.
Moi, je vois des mecs qui sont avec des sortes de treillis blancs, avec des bottes, des chaussures de boxeurs, des t-shirts moulants, des crêtes sur la tête, avec des fluos partout.
Il y a eu un truc très fashion, en fait, qui est sorti, hein, mais vraiment très, 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 très fashion, hein. Je sais pas, je crois que c'était vraiment l'essor de H&M et tout à l'époque. C'était vraiment le moment fort d'H&M et tout. Et il y avait beaucoup de trucs comme ça où tu voyais des mecs avec des t-shirts en V ou des polos en V, trucs qui redescendaient à fond et tout. C'était vraiment cette mode-là qui était du moment.
Alors moi j'arrive, je comprends pas ce qui se passe. Je viens du hip-hop. Je m'habille large et je passe du jour au lendemain en fait à tout serré, tout slim. Donc toutes mes affaires de jeu là, je les mets à la poubelle. Et voilà, je deviens fashion. Et du coup, bah voilà, les slim, on a des schmoves, on a des swears, donc des chaussures un peu pointues. On jouait avec des guêtres fluo, comme des bolas. Et en fait, on s'est amusé à faire des mouvements circulaires. On jouait avec la lumière, tout simplement, on s'éclatait. C'est des sortes de grosses chaussettes qu'on mettait au niveau des poignets et des pieds. La lumière noire permettait de la faire réfléchir, puisqu'ils étaient fluo, de différentes couleurs, jaune, vert, rose. Bleu, c'est quelque chose. En fait, on a vécu une époque, on se rendait même pas compte ce qu'on vivait, mais c'était surréaliste. On vivait un truc qui était tellement fort.
Première fois que je vais au métro, c'est le 24 septembre de 2006, je crois. Je peux pas l'oublier, c'est impossible. Je peux pas.
Ah, les gens diront que j'étais fou, mais non, c'était juste magique. Si je devais le refaire, je le ferais, mais là, dès maintenant.
Donc le pont d'Orly, c'est un énorme pont qui traverse l'autoroute qui mène de Paris à l'aéroport d'Orly.
Alexandre Barousdine, cofondateur avec Cyril Blanc des soirées tectoniques.
À l'époque, c'était un projet de centre commercial. Donc centre commercial, qui dit centre commercial, dit quand même grosse superficie, dit des accès un peu de dingue avec des escalators. Sauf que le projet ne prévoyait pas forcément qu'il y ait un projet un tout petit peu plus loin qui s'appelle Belle Épine qui se crée. Et donc le projet du centre commercial tombe à l'eau, les boutiques ferment les unes derrière les autres et la famille Feingold récupère ce lieu je crois pour le franc symbolique, hein, avec une concession illimitée, qui leur permet en fait de modifier ça et d'en faire la plus grande discothèque de Paris-Île-de-France. Et là, on se retrouve avec l'architecte d'Aéroport de Paris qui travaille en même temps sur le Métropolis pour faire des choses qui n'existaient pas, hein, à l'intérieur de la discothèque, un module mobile qui fait complètement survoler toute la piste de danse avec les artistes qui pouvaient monter dedans et passer au-dessus. À l'époque, tu avais même encore un mobile qui tournait sur lui-même, donc les gens dansaient dessus et allaient tourner. Enfin voilà, des idées complètement hallucinantes et incroyables qui n'existaient nulle part ailleurs. Ou peut-être qu'à l'époque du studio 54 à New York, où vraiment tu avais des architectes qui pouvaient s'éclater parce qu'on leur laissait la possibilité. On est dans un endroit festif, il faut y aller à fond, donc Benno Feingold dit allez-y, éclatez-vous. Et on se retrouve justement avec un outil de travail qui est magique, parce que complètement innovant. On est effectivement dans un mélange à l'époque qui était très futuriste. Hein. Ça permet vraiment d'emmener les gens vivre une expérience musicale qu'ils n'ont pas l'habitude forcément de voir ou d'entendre. Donc ce lieu s'y prête, les gens le découvrent et au final reviennent. La genèse de tout ça, ça part d'un voyage à la base. Ça part d'un voyage en Angleterre où l'on va vivre justement pendant un an. On va découvrir le pays, on va découvrir les soirées, la musique. On va vraiment s'entourer justement de DJ. On va avoir la chance et l'opportunité de pouvoir apprendre le métier. Et ça, c'est important, c'est apprendre le métier aux côtés de soirées qui s'appelait Melt à l'époque, dans une boîte de nuit qui s'appelait le Turn Mills, qui n'existe plus malheureusement aujourd'hui. Donc on est vraiment dans une époque très techno, même hard techno. Et on donne un coup de main justement à une copine qui nous permet de voir ce qu'il y a derrière une soirée. Comment est-ce qu'on organise une soirée? Parce que non, c'est pas simplement on ouvre les portes et on met la musique. Non, il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui sont à la comptabilité, il y a des gens qui sont au ménage, il y a des gens qui remettent les boissons dans les bars. Et on découvre justement tout ce monde derrière la soirée. Au bout d'un an que l'on vit à Londres, on décide de revenir sur la France, à Paris, et on se pose la question, on se dit mais on aimerait bien continuer cette aventure. Où est-ce que l'on pourrait aller? Qui est-ce qu'on connaît dans nos relations? Et on se souvient d'un ami qui s'appelle Jean-Luc, dans une discothèque qui n'est autre que le Métropolis. On discute avec lui, on se refait un petit peu la vie, qu'est-ce que t'as fait, d'où tu viens et tout ça. Et puis ben, il nous propose, mais attendez les garçons, si vous voulez, moi aujourd'hui j'ai besoin de redynamiser le club, j'ai besoin de faire connaître un petit peu qui nous sommes. Est-ce que ça vous intéresserait de pouvoir faire des soirées chez nous? Et voilà comment est-ce que tout a commencé. Au départ, les soirées s'appellent Blackout. Donc on cherche un concept, on sait que sur Paris ça se fait pas forcément de mettre la boîte de nuit dans le noir, de mettre en avant le côté fluo, le côté phospho qu'on avait nous connu justement sur l'Angleterre, et on se dit bah tiens, on va essayer de le faire sur Paris, pourquoi pas. Et on lance les soirées Blackout, et ça cartonne et ça cartonne, et plus ça va et plus il y a de monde, et on se retrouve justement à avoir un tel succès qu'on fait même un char à la Technoparade Blackout. Sauf qu'en fait, chose qu'on ne savait pas, une marque ou un nom, quel qu'il soit, derrière il y a une marque, et derrière une marque il y a peut-être un ayant droit, et ça nous on ne sait même pas de quoi on parle. Et on se retrouve avec une lettre du propriétaire de la marque Blackout qui me dit, qui me convoque et qui me dit écoutez, vous êtes bien gentils les gars, mais je suis propriétaire de la marque Blackout, donc vous arrêtez vos conneries, vous n'avez pas le droit de faire de soirée comme ça, la marque m'appartient, donc maintenant vous faites autre chose, mais sinon, ou si vous voulez garder le nom Blackout, vous devez me verser des royalties et ce genre de choses. Donc on est un peu dépité parce qu'on avait lancé justement ces soirées qui cartonnaient et qui étaient vraiment un succès incroyable, et on se retrouve à devoir se mettre autour de la table, à cogiter les uns les autres sur ce qu'on appelle une marque que nous on connaissait pas forcément, en tout cas dans notre domaine, parce qu'on savait pas que ça existait dans le domaine de l'événementiel. Et on se dit, bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On aime les genres musicaux qui se rencontrent, qui s'entrechoquent, entre guillemets, parce que déjà à l'époque de Blackout, on n'hésitait pas à mettre de la house, on n'hésitait pas à mettre de la techno. Donc, pourtant, ça n'avait rien à voir. À l'époque, tu ne mélangeais pas les deux styles musicaux. Nous, en fait, on le faisait. Et on se dit, qu'est-ce qui arrive en fait à s'entrechoquer et à se réunir, et on se dit on cherche des noms, tu t'en doutes, hein, c'est passé par tous les noms de la Terre, et il y en avait un où on se rend compte que les plaques tectoniques sont des plaques qui n'ont rien à voir et qui se rencontrent et qui créent quelque chose. Et on s'est dit pourquoi pas tectonique. Donc c'est vraiment parti d'une problématique de nom et de marque à la création, entre guillemets, de la nôtre, qui n'était pas donc déposée, qui n'était pas prise, que l'on pouvait s'approprier et pouvoir justement travailler autour, cette fois-ci, tranquillement. Voilà comment Tectonique, le nom Tectonique est né. Ça prend du temps, évidemment, de lancer une soirée avec sa propre identité, que ce soit visuel, que ce soit musical et ce genre de choses, mais tout du moins, on va dire que ça se réfléchit en amont. Cyril et moi, Cyril s'occupe plutôt de la partie justement visuelle et la partie aussi artistique en général. Donc si tu veux, ce que l'on fait, c'est qu'on se dit qu'est-ce qui manque aujourd'hui dans le paysage musical à Paris. Donc il y a effectivement à l'époque vraiment la partie hip-hop R&B qui est très ciblé et qui est propre à certains clubs. Nous, on est dans la fin des années 90, on est dans les années 2000. J'ai envie de te dire que ça se cherche un petit peu, tu vois. On a toujours, entre guillemets, encore des deux grosses tendances à l'époque, c'est la house et la techno, qui sont vraiment deux mondes différents, parce que d'un côté tu as vraiment le monde du clubbing avec la house, et tu as la techno où tu te retrouves avec du Laurent Garnier. Il n'y a pas forcément de gros repères, tu vois, c'est deux mondes complètement différents, mais qui nous de notre côté font que ça nous intéresse dans une soirée d'avoir une sorte de progression. Par la suite, on va rajouter, lors de nos différents voyages, du hardstyle qu'on avait écouté à l'époque en Hollande, de la trance. On avait beaucoup en fait sur la Suisse. Et voilà, et ce mélange de tout ça, on se dit pourquoi dans ces cas-là ne pas le mettre dans la seule et même soirée qui s'appellerait donc Tectonique. Et on va faire voyager les gens, une expérience musicale où ça va commencer plutôt à la cool avec l'électro, minimal. On va monter un petit peu plus d'un point de vue clubbing avec de la house, pour arriver vraiment sur quelque chose de plus dur avec le hardstyle. On aura même atteint le hardcore avec des artistes tels que Hungerfist, Neophyte, pour ensuite redescendre et permettre aux gens, avant de reprendre la voiture vers les 5h du matin, de ne pas être énervé, mais d'être redescendu, parce que nous, musicalement, on aura réfléchi notre courbe de telle sorte que, à partir de 3h, on redescend en électro minimal pour justement permettre aux gens de redescendre et de pouvoir reprendre le volant un peu plus calmement, on va dire.
Ça commence house, hop, après on arrive sur l'électro, minimal, et on bascule, je sais plus, c'était 23h45 ou minuit, ouverture du Métropolis. Donc c'est un truc qu'il y a tout le temps à minuit. Donc il y a une espèce de petit truc de 5 minutes.
Ah, l'ouverture est phénoménale.
Un chant que tout le monde connaît, tout le monde se positionne dans la même direction, on aurait dit une secte carrément.
Avec un moment où il y avait des percus et il y avait toujours la simultanéité des lumières avec la musique. Et ça durait 2 minutes et tout était réglé au millimètre. Il y a une anecdote là-dessus. Il y a eu pendant un moment une petite rumeur qui disait que le pont allait s'écrouler parce que tous les clubbeurs tapaient du pied en même temps.
Mmh.
le fameux laser qui prenait pendant l'intro où c'était complètement dans le noir. Intro, laser, qui était à l'époque le plus grand laser d'Europe. C'était un laser avec de couleur verte, parce que là, c'est la couleur qui se voit le plus en club. C'est décuplé par le fumigène. Mais le laser suivait en plus la musique. Donc à chaque fois qu'il y avait un rythme, le laser bougeait, c'était... Ouais, les gens qui essayaient de mettre la main dans le laser, enfin ce genre de choses. Et tout ça fait que ça a fait le succès du Metropolis, c'est sûr, sûr et certain.
Bah, si tu veux, en fait, ce qui fait que les gens en général entendent le nom tectonique, c'est par rapport à la danse. Or, tectonique, c'est des soirées. Quand tu regardais, tu voyais des gens qui dansaient l'un à côté de l'autre, très figés, c'était très statique. Et tu avais, alors déjà à l'époque, en 2000, tu avais Cyril qui, lui, est sorti d'une période de danse classique, moderne jazz. Moi qui étais fan de tout ce qui était voguing. Et au Metropolis, parce que c'est nos soirées, parce qu'on fait aussi ce qu'on veut, on s'éclate à droite, à gauche, à faire des grands mouvements. Justement parce qu'on en a marre de voir ces gens qui sont figés comme des pingouins et qui dansent un petit peu en faisant du surplace. Et nous, vas-y, qu'on fait des grands mouvements de bras, des grands mouvements de jambes. Et on s'éclate et on s'amuse. Et pourtant, on n'est pas des danseurs professionnels. Il fait passer une boîte de nuit qui est figée à des gens qui commencent à pouvoir utiliser les bras, à faire des mouvements avec les bras, à prendre un petit peu plus de place. On commence à avoir déjà un balbutiement jusqu'à ce qu'effectivement tu te retrouves avec une salle qui saute lorsque le DJ il envoie après le break, que ça repart. Voilà, il y avait vraiment, on a vraiment nous connu ce moment où on est passé d'une boîte de nuit qui était assez figée à une boîte de nuit où ça danse dans tous les sens.
C'est une union de différentes choses.
DJ RVB, un des DJ de référence de la tectonique.
Ça a été une union du Metropolis en lui-même, de la danse qui était en train de se créer au sein du Metropolis, du style vestimentaire qui fait que celui qui allait au Metropolis avait la sensation d'appartenir à une famille. C'était la famille du Metropolis. Et tout le monde se réunissait là-bas parce que c'était un style vestimentaire particulier. Tout le monde aimait un style de musique. Et en fait, c'est pour ça que ça a pris. Il y avait vraiment une âme. Et c'est ça qu'on aimait aller chercher là-bas. C'était une famille, puisque les gens cherchaient à faire des teams, des équipes de meilleurs danseurs. Et ils se faisaient des battles, justement. Et c'est de là qu'est née la battle. C'est parce que c'est les teams qui voulaient être les meilleurs danseurs. Je pense que c'est né comme ça.
Est-ce que c'était repris du hip-hop? Je ne sais pas. Est-ce que c'était repris? Enfin, c'est une vieille tradition de se retrouver en groupe, en communauté, pour partager dans un premier temps et après pour marquer son identité.
Tout le monde avait son espace. Après, ça dansait de partout, hein, clairement. Ça dansait vraiment de partout.
Et comment ça s'est construit? C'est que les teams, elles étaient déjà là. Donc il y avait la Buffalo Tech, la Space Team. Il y avait quoi qu'il y avait comme team? Il y avait la Fana Tech.
En fait, ils avaient tous des noms comme ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Des noms avec des t-shirts, Nitroxide. Je vois la team Diablo Tech. Je fais, on m'engage tout de suite, Diablo Tech. Donc Matou Diablo Tech.
La plupart du nom c'était en tech et ça se comprend puisque les mecs écoutaient de la musique techno, il y avait un mouvement hardstyle.
Pour certains ça prouvait un peu la bande de potes, parce qu'il y en a c'était vraiment des collègues depuis super longtemps. Piratech par exemple, mort de rire les mecs. Bibi Rookie, non mais des noms à cette ordre de rire quoi.
C'était vraiment peace and love, chacun son petit groupe et chacun se clubait à droite à gauche, chacun ses préférences.
Kali, danseur tectonique.
En parallèle des sorties en boîte de nuit, les gens organisaient des choses sur leur skyblog, donc ils partaient à droite à gauche. Donc en fait si tu veux, on a vraiment pris le concept de team et puis on l'a développé. Et là, le mouvement est sorti du Metropolis pour partir affecter un petit peu tous les autres clubs parisiens. Et là, on a eu une émergence au Mix Club, au Red Light, et après un peu dans toutes les boîtes de France et même de Belgique, d'Europe.
Et après, là, ça a vraiment commencé, ça a commencé de plus en plus. Chaque semaine, il y avait de plus en plus de pas, plus en plus de... Et ça s'arrêtait pas. Ça s'arrêtait pas à danser. Et surtout, quand on faisait les battles, c'était pour progresser, inventer, partager. C'était pas un esprit de compétition. À l'époque, il n'y avait vraiment pas cet esprit de compétition. En tout cas, pour nous, au Métropolis, il n'y avait pas ce truc-là.
Donc, si tu veux, il y avait le Mix Club qui dansait déjà très très fort, mais eux, ils avaient une autre culture musicale qui était l'électro. Donc, nous, on dansait sur du hardstyle, donc une danse qui est totalement différente, avec des nappes qui montent et qui descendent, et des moments de puissance. Donc, en fait, c'était une autre façon d'appréhender la musique. Le Red Light, à l'époque, était assez shuffle, on y allait en after le dimanche. Donc, tu avais un groupe minimaliste, de l'électro, et on avait du hardstyle. Take a tonic over the place. Feel the music in your face.
Make you Wednesday. Get you sexy. Take a tonic over the place. Il y a une soirée qui s'appelait la Paris All Star. Et t'as les mecs du Red Light et du Mix qui se pointent, enfin surtout du Red Light.
Donc ce qui s'est passé, c'est que ce soir-là, Trixie a brillé, parce qu'entre guillemets, il faut savoir qu'il y a eu une grosse confrontation sur les Skyblock, ça a explosé et les gens ont dit ok, bah ce week-end on va tous venir au Métropolis et on va entre guillemets régler nos comptes. Voilà, enfin c'était la première fois qu'on rencontrait les gens physiquement.
Ils viennent me voir et me disent bon écoute, c'est simple, prépare tous les danseurs qui sont là parce que dans une heure on fait une battle et on va vous fumer. Ouais mec, une feuille morte qui tremblait. Quoi, comment ça tu vas me fumer? Mais pourquoi tu... Mais je comprends pas, parce que moi je viens pour m'amuser, moi je viens pour chiller, tu vois, c'est cool en fait.
Faut savoir que la moitié de nos troupes du Métropolis, on serait toujours, étaient partis en Belgique au Cube. Il y avait Cyril et Alex, je crois, qui organisaient des événements où ils faisaient bouger les gens du Métropolis. Ce soir-là, effectif réduit, et Trixie a brillé par... Il s'est vraiment mis en valeur, il a vraiment défendu la danse qu'on prenait chez nous. Je peux pas te dire d'où part l'histoire, mais en fait, c'était une super aventure. Je crois même que je dois avoir 2-3 photos.
Et là, les mecs sont arrivés et je les ai pris un par un et je les ai défoncés. Parce que je m'étais préparé, j'étais tellement à fond dans le délire, et jusqu'à qu'ils me respectent.
Pour moi, c'est un élément déclencheur de la réunification de toutes les danses. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'après ce soir-là, la moitié des gens du Red Light sont restés au Métropolis et la moitié des gens de Mix Club sont restés au Métropolis. Et après, ce soir-là, les gens du Métropolis ont commencé à aller clubber dans les autres clubs pour voir ce qui se passait là-bas. Si tu veux, c'était comme si tu avais 3 identités propres et les gens, ils sortaient de leur monde, ils allaient dans un autre monde pour voir une autre culture de danse. Et au final, après, on s'est tous à peu près liés d'amitié. Tu sais, ça commençait dans les grands mouvements. Le mec, tu le vois tous les week-ends. Tu l'as clashé au début, puis après tu rigoles avec tout le monde. Il y a des choses qui sortaient du lot de partout. Et je pense que c'était un énorme avantage, au final.
Et ça promouvait le fait d'être amis, d'aimer les mêmes choses, c'était un peu plus le style vestimentaire. Et pour vraiment les danseurs, vraiment ceux qui étaient vraiment focalisés sur la danse, c'était avoir une identité. Et en même temps une différence, mais une identité par rapport à la danse, c'était très important. Donc nous, dans la Dabothèque, il y avait vraiment que des danseurs vraiment avancés, quoi. Parce qu'en fait, c'est pas pour... Enfin, quand j'en parle, c'est comme si je l'ai vécu, mais en fait, c'est pour moi, c'est un monde à part. Enfin, c'est un truc... c'était encore les bonnes énergies, pas le sens de la compétition, du faire valoir. C'était on partageait des bonnes valeurs, je pense. Je pleure, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi.
Visuellement, c'est ça qui est fort. Tu vois, visuellement, c'est que il y a de tout. Il y a pas de. On se pose pas la question de savoir qui fait quoi. On s'en fout. On s'en fout, on est là pour le même but. On est là juste pour danser, juste pour kiffer la musique et montrer nos steps, montrer ce qu'on fait avec la lumière. En fait, ce qui a été fort, c'est ce mélange de cultures réelles. Le plus important, c'est qu'on kiffe. Your
weakness is a perfect match. On se retrouve à mettre justement en scène sur des flyers des mannequins. Tu sais pas trop si c'est des filles, tu sais pas trop si c'est des garçons, tu sais pas trop qui est avec qui. Donc voilà, on joue un peu là-dessus, et au final ça nous fait rire parce que les gens se posent des questions. Et c'était ça aussi Tectonic, il y avait aussi ce côté très androgyne. On savait pas trop qui était qui ou qui était quoi, tu vois. Et c'est en plus, je pense, une époque où les jeunes aussi ont commencé à pouvoir sortir les uns avec les autres. Il n'y avait pas à se cacher, il n'y avait plus à se cacher. C'est-à-dire que deux filles ensemble, elles étaient évidemment bienvenues et c'était normal pour nous. Deux garçons, c'était pareil. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment une volonté de casser tous ces codes. On n'était pas une boîte gay et pourtant, à l'intérieur, tu avais aussi bien des gays que des lesbiennes, que des trans. On avait vraiment réussi à faire ce qu'à l'époque, les grands, ceux que l'on admirait, justement, les David Guetta avec le Palace, avaient réussi à faire, c'est-à-dire mélanger toutes les catégories socio-professionnelles pour s'amuser autour d'un même thème qui était la soirée.
Voilà. Dans le prochain épisode, vous pourrez découvrir comment la tectonique est sortie du métropolis et est devenue un phénomène de société.
Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le Naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.